Ézéchiel était un sacrificateur en Israël. Il était pas très vieux quand le jugement de Dieu est tombé sur ce pays, devenu très infidèle à Dieu, parce qu'ils ont rejeté le vrai Dieu qui s'était révélé à eux depuis des siècles, pour aller adorer des faux dieux, pour se fabriquer des idoles, pour avoir un dieu selon leur image, pour faire un dieu en kit, et parce que ça les arrangeait. Le pays était devenu rempli de violence, d'immoralité, d'adultère, de fraude, des choses terribles. Et Dieu a jugé son peuple, il a fait venir la peste, la famine et l'armée babylonienne qui a emporté le peuple d'Israël en captivité. Et pendant à peu près 23 ans, Ézéchiel, au moins 23 ans, Ézéchiel était en captivité en Babylone, avec le peuple à qui Dieu avait promis d'être son peuple dans son lieu, c'est-à-dire dans la Palestine, un territoire qui était à eux, et qui serait un peuple spécial pour Dieu. Mais tout cela s'est volé en éclats. Je vois que reprendre, c'est pas facile, n'est-ce pas? Aller dans l'école de dimanche. Mais au bout d'une certaine période de temps, des années prévues, Dieu annonce maintenant à Ézéchiel, du sacrificateur qu'il était, devenu prophète. Dieu lui donne des messages pour Israël, pour les maintenir en captivité, parce que quand Dieu châtie, c'est pour notre bien. Et Ézéchiel annonce que Dieu va les faire revenir dans le pays, leur pays. Il va leur pardonner, il va tout bouleverser, tout changer et changer leur captivité en joie. Et donc dans ce passage, Dieu prend Ézéchiel en vision. Était-il endormi quand il a eu la vision? Est-ce c'était un rêve ou bien est-ce qu'il était réveillé et Dieu lui fait venir dans l'esprit surnaturellement cette vision qui était tellement réelle pour lui? En tout cas, Dieu le place dans le milieu d'une vallée. Et cette vallée est remplie d'ossements et c'est là que nous commençons notre réflexion aujourd'hui. Trois points. Premier point, parce que ce passage nous parle et ça nous montre certaines choses sur la manière dont Dieu agit avec les hommes à tout temps. Premier point, le Seigneur veut que nous comprenions la situation dans laquelle notre péché nous a plongés. Parce que, après tout, c'est le péché contre Dieu qui a plongé Israël dans cet horrible esclavage et captivité en Babylone. Et Dieu amène Ézéchiel dans une situation où, de manière figurative, il voit la situation de son peuple. Maintenant, les ossements, ça représente quoi? Selon le passage, ça représente le peuple qui est desséché, qui est mort, qui n'est plus en relation avec Dieu, qui n'a plus son héritage en Canaan, qui n'a plus rien, qui a un anneau dans le nez, qui a des chaînes sur les pieds, des esclaves en Babylone, dans un pays étranger, misérable. Misérable à quel point? Si vous voulez savoir, vous pouvez lire le verset 11. Il me dit, fils d'homme, ces ossements, c'est la maison d'Israël, c'est ce que je viens de vous dire. Il montre une image de l'état psychologique et spirituel d'Israël. C'est comme des ossements. Et il dit, ces ossements, c'est toute la maison d'Israël. Voici qu'ils disent, que les gens d'Israël, autour d'Ézéchiel, disent, nos os sont desséchés, notre espérance est évanouie, nous sommes perdus. Des décennies se sont déroulées dans captivité. Le peuple pense, on va jamais revenir chez nous. On va jamais retrouver notre relation avec le Dieu éternel qui nous avait tant béni et que nous avions abandonné. Tout est fichu. Comment est-ce que tu échappes à l'empereur de l'empire le plus puissant du monde? Comment est-ce que tu... C'est impossible, vous comprenez? Si nous étions à l'époque pris en captivité par Babylone, c'est la fin. Il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus d'issue dans une situation comme ça. Et le peuple le ressent comme ça. Donc, Dieu fait quelque chose de bizarre. Il met Ézéchiel dans cette vallée qui représente la situation d'Israël. Et il le rend conscient du vrai état des choses, de la situation dans laquelle le péché a plongé ce peuple. Et Ézéchiel dit, il me fit sortir en esprit, verset 1, et me déposa dans le milieu de la vallée, celle-ci était remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour. Donc il est planqué au milieu d'une vaste vallée, qui n'est rempli que de squelettes. Et même pas de squelettes, parce que ça fait tellement longtemps que ces ossements sont là, que les os ne sont plus attachés par les ligaments. Les ligaments n'existent plus. Donc on n'a que des ossements un peu éparpillés. Mais partout à perte de vue. Ézéchiel ne voit que la désolation, la mort, la mort, la mort. Et Dieu l'oblige à passer, il dit, il me fit passer auprès d'eux tout autour. Il doit faire le tour de la vallée et regarder. Et prendre la mesure d'une situation absolument désespérée et sans espoir. Et Ézéchiel dit... Il me fit passer auprès d'eux tout autour, or ils étaient très nombreux à la surface de la vallée et très secs. Très secs. Nous aussi, nous devons, Dieu veut que nous prenions le temps d'écouter et de comprendre le résultat du péché dans nos vies aussi, de constater. De comprendre. Si quelqu'un va devenir chrétien, si tu vas te réconcilier, revenir à Dieu, la première chose, c'est que tu constates la situation de mort. Tu es mort spirituellement. C'est pourquoi j'ai demandé à Joël de lire Éphésiens 2. Paul dit au sujet de lui-même et des chrétiens à Éphèse qu'avant leur conversion, nous étions morts dans nos péchés. Pas physiquement, mais spirituellement. Tu n'avais plus de vie, tu n'avais plus envie de Dieu, aucune envie. Tu pouvais me dire ce que tu voulais au sujet de Dieu, il n'y avait rien en moi qui répondait. Tu pouvais essayer de me convertir, me parler de l'enfer ou du ciel. Avant ma conversion, rien ne pénétrait, parce que j'étais mort spirituellement. Ça, c'est grave, n'est-ce pas? C'est grave. Mais la Bible dit que c'est l'état de toute personne inconvertie. Regardez le monde. Regardez la mort spirituelle autour de nous. Personne ne s'intéresse au Créateur, à la raison pour laquelle on est là. On a effacé Dieu de notre conscience, de notre société, de nos institutions, de notre éthique. Mort, mort, mort spirituellement. Voilà la situation. que nous voyons. Et Ézéchiel voit quelque chose comme ça, figurativement, dans le fait que ses ossements sont partout et sont très secs. Dieu ne le fait pas venir dans une vallée de cadavres avec la chair. Ça aurait pu communiquer le fait de la mort. Un cadavre, c'est mort. Mais il le fait venir dans une vallée d'ossements très secs. Pourquoi? Parce que la situation d'Israël, c'est qu'ils ont été loin de Dieu, coupés de Dieu, pendant si longtemps, que la mort spirituelle a pu faire tout son possible. La mort physique, quelqu'un meurt, et si tu laisses la mort faire tout son possible, qu'est-ce qui arrive au corps physiquement? Le corps se détériore, la chair se décompose, la chair, les sinus, les ligaments disparaissent, les os sont là, et si tu laisses encore le temps pour voir ce dont la mort est capable, la mort va complètement dessécher ses ossements. Et quand tu arrives à ce stade-là, tu vois que tu es arrivé au bout, à la finalité, à une situation de non-retour, humainement parlant. On ne peut pas refaire vivre comme ça, nous. Donc Dieu met Ézéchiel au pied du mur et l'oblige à voir l'impossibilité et l'impasse de la mort, de ce que son péché a causé. Quand je constate mon travail pour essayer d'annoncer l'évangile à la France, je me sens comme dans une vallée d'ossements desséchés. L'existentialisme, l'athéisme et tout le reste a eu pas des décennies, mais des siècles pour faire tout son possible à un peuple qui maintenant n'a presque plus de conscience morale. Tout est possible. Et donc, Dieu est réaliste. Il nous oblige à constater la vraie situation, qui est une situation impossible. Et il lui pose une question, regardez ça. Il dit, verset 3, « Fils d'homme, ses os pourront-ils revivre ?» Oh, vous savez que parfois on vous pose une question et vous souhaiteriez pour tout au monde quand vous ne vous êtes pas posé cette question. Vous êtes en classe et vous avez vagabondé dans votre tête et le prof dit « Et quelle est la date de telle chose dans l'histoire ?»« Oh non, pas à moi, pas à cette question. » C'est encore pire pour Ézéchiel. Il le fait promener pendant longtemps et il voit la désolation et Dieu lui pose cette question. Ses ossements pourront-ils revivre? Ses ossements? Et Ézéchiel est honnête. Il est prophète. Il a vu Dieu agir. Il sait quelque chose dont Dieu est capable. Mais là, il répond tout simplement, je répondis, Seigneur, c'est toi qui le sais. Est-ce que ses ossements pourront revivre? Oh, toi seul, tu pourras savoir. Si tu es capable de faire ça. Dieu nous met au pied du mur, parfois, dans une situation d'impasse et d'impossibilité. Deuxième point. Et les deux autres sont plus courts. Dieu ressuscite les morts à travers sa parole. C'est-à-dire l'évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ et tout ce qu'il a fait en mourant à la croix. Dieu ressuscite les morts à travers sa parole que nous proclamons. Maintenant, je parle à vous, hein. Je vais vous montrer comment cette expérience d'Ézéchiel influe sur nous. Peut-être que vous avez besoin de vous convertir à Christ. Comment est-ce que ça peut se passer? Peut-être que vous priez pour quelqu'un que vous aimez et vous aimeriez voir cette personne sauver, venir, revenir à son Dieu. Ou bien, peut-être vous pensez à cette église, son implantation. Comment est-ce qu'on va atteindre les gens de ce quartier, les aider à comprendre ce que Dieu leur offre, le pardon, une vie nouvelle, la vie éternelle, une vie changée. Eh bien, Dieu ressuscite les morts spirituels comme nous étions et comme les gens autour de nous le sont en ce moment. Dieu les ressuscite de leur mort spirituelle à travers la parole que nous proclamons. Regardez avec moi au verset 4. Il me dit, Dieu lui dit, prophétise sur ces os. Moi, je vais dire, prêche aux os. Ok, c'est un peu ça. Tu leur diras, donc aux ossements, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à ses os. Voici que je vais faire venir en vous un esprit, et vous vivrez. Je placerai sur vous des nerfs, je ferai pousser de la chair sur vous, je vous recouvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit, vous vivrez et vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel. Ézéchiel doit se promener dans cette vallée, et si quelqu'un était là, il aurait pensé qu'il était fou. Parce qu'Ézéchiel commence à prêcher aux ossements desséchés. Il leur dit, écoutez la parole de l'Éternel, le Seigneur. L'Éternel vous dit, je mettrai mon esprit en vous, je vous recouvre. Et tout le reste. C'est un acte de foi, n'est-ce pas? De parler comme ça. C'est un acte de foi de notre part, de parler au voisin et de lui dire, le Dieu qui est là, il vous parle. Il a un message pour vous. Vous pouvez revivre. Quoi que vous ayez fait dans votre vie, quel que soit le péché, quel que soit votre éloignement de Dieu, quel que soit le dessèchement de vos eaux, vous pouvez revivre parce qu'ainsi parle l'Éternel. Prophétiser, bon, ou prêcher, c'est dire simplement aux gens, voici ce que Dieu dit. Écoutez ce que Dieu vous dit. Et c'est ça notre tâche, n'est-ce pas? C'est leur dire que Dieu est un Dieu souverain qui peut tout faire. Vous avez remarqué comment le message montre vraiment que Dieu, il fait ce qu'il veut. Regardez, il doit leur dire, et il doit leur dire, ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ses os, voici que je vais faire venir en vous un esprit, et vous vivrez. Je placerai sur vous des nerfs, je ferai pousser de la chair sur vous, je vous recouvrerai de peau, je mettrai en vous un esprit. Ce n'est pas ce que nous pouvons faire pour nous changer. La bonne nouvelle, c'est que Dieu nous dit, moi, je suis le Seigneur, l'Éternel, le Dieu souverain, et je ferai l'impossible. Ça, c'est la nouvelle que nous avons à annoncer aux gens aussi, n'est-ce pas? Des gens qui sont coupables, des gens qui sont immorales, des gens qui ne s'intéressent pas au Seigneur, des gens comme moi et vous, n'est-ce pas? Des pécheurs, et la bonne nouvelle que nous avons à vous dire, à nous dire à nous, c'est que le Seigneur l'Éternel est capable de faire l'impossible. Bien. Et vous savez que seulement un Dieu complètement souverain peut nous être utile. Parce que s'il y a quelque chose que Dieu ne peut pas faire, nous sommes fichus. N'est-ce pas? Mais Dieu nous révèle en Christ qu'il est capable de tout changer Et si vous avez été chrétien depuis longtemps, vous avez vu des gens. J'ai vu des gens, même dans cette tournée aux États-Unis, cette fois, j'étais dans 11 églises différentes. Et franchement, j'ai vu des merveilles. Après un culte, un homme s'est approché de moi. J'avais prêché. Il m'a dit, votre message me parlait vraiment. J'ai dit, parlez-moi de vous, monsieur. Qu'est-ce que vous voulez dire? Il a tapé sur sa jambe et j'ai entendu, parce que c'était une jambe artificielle qu'il avait depuis à peu près 3 mois. C'était un gars qui était un peu rude, en jean, pas bien rasé. C'était évident que... Bon, il m'a raconté, je suis motard, j'ai été un homme mauvais, brusque, je vivais une vie immorale, grotesque. Et il y a quelques mois, je me suis fait renverser sur l'autoroute par un camion sur ma moto. Je me suis retrouvé une jambe sous ma moto. La moto me brûlait la jambe. Et l'autre jambe, je la voyais là-bas. Et quand ça s'est passé, j'ai crié à Dieu pour la première fois de ma vie. Je connais des chrétiens. Ils me parlent depuis longtemps. Et ils me disent de venir, de revenir à mon Dieu, de vivre pour son plan pour moi, pas mon plan. Et j'ai crié à Dieu, j'ai dit, oh Dieu, sauve-moi. Je vois maintenant. J'ai besoin de Jésus-Christ. C'est un échangé. Les gens dans l'église me le disent. Ils disent qu'il est complètement différent. Et il m'a dit, c'est lui qui me le dit. Il m'a dit, cet accident de voiture et cette jambe en bois, c'est la meilleure chose qui m'est jamais arrivée. C'est fou, n'est-ce pas? Et partout dans ces 5 États, ces différentes villes où j'ai passé, j'ai vu des morts ressuscités. Des gens qui étaient dans une situation impossible de les récupérer. Et le Seigneur les a sauvés. Vous voyez que c'est quand Ézéchiel commence à prophétiser aux ossements, à aller prêcher, qu'il voit que les os commencent à se remettre. Nous lisons ici, « Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu, et comme je prophétisais, ou quand j'ai prophétisé, il y a eu un bruit. Et voici qu'il y a eu un frémissement. » Et les os s'approchèrent les uns des autres. Je constatai qu'il y avait des nerfs sur eux. La chair se mit à pousser, ainsi de suite. Et chers amis, nous, si nous allons aider les gens autour de nous, c'est quand nous leur annonçons la parole de Dieu qu'il va y avoir un frémissement, un bruit, un quelque chose qui arrive en eux. Les gens seront touchés, vont commencer à réfléchir aux choses importantes et éternelles. Donc je vous encourage que c'est comme ça que les morts sont ressuscités. Il faut ouvrir la bouche. Il faut leur parler de la parole de l'Éternel, de ce que Dieu leur dit, la bonne nouvelle, qu'il est capable de tout changer. Dernier point, et je vais finir. Dieu ressuscite les morts à travers son esprit que nous demandons. Vous vous rappelez du point précédent? Dieu ressuscite les morts à travers sa parole que nous proclamons. Dieu ressuscite les gens à travers son esprit que nous demandons. Maintenant, vous savez très bien qu'il ne suffit pas de parler à quelqu'un de la parole de Dieu, de lui expliquer l'évangile. Ça ne suffit pas, parce qu'il est mort. Il faut que l'esprit de Dieu lui-même souffle sur sa vie, ouvre ses yeux, ouvre son cœur, pour qu'il soit atteignable par cette parole. Et c'est pour cela que nous lisons que ses ossements se sont rejoints, se sont recouverts de peau, de chair, mais Ézéchiel dit, Mais il n'y avait point en eux d'esprit. La parole qu'il leur prêchait seule ne suffisait pas. Il faut une deuxième chose. Et donc nous lisons, il me dit, prophétise et parle au vent, ou bien à l'esprit. Prophétise, fils d'homme, tu diras au vent ou à l'esprit, l'esprit que le vent symbolise, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, esprit ou vent, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils reviennent. Si nous voulons aider nos amis, nos voisins, notre pays, nous devons prêcher l'Évangile, mais nous devons prier. Nous devons prier que le Seigneur souffle, qu'il donne son esprit. Et Dieu parle du Saint-Esprit, ici, et il dit à Ézéchiel qu'il doit, en quelque sorte, prier que l'Esprit vienne. Maintenant, dans cette image, c'est comme si le vent est loin. Parfois, on n'a aucun vent dans un lieu, n'est-ce pas? Ça stagne. On a envie d'un peu de vent parfois à Marseille, n'est-ce pas? Quand le vent ne souffle pas, parce qu'il fait chaud. Et donc, le vent est ailleurs, mais pas ici. Et Ézéchiel doit appeler au vent de venir là où on en a besoin. Et ce qu'il faut que nous fassions aussi, c'est que nous devons prier, « Oh Dieu, donne-nous la puissance de ton esprit. » Faire venir ton esprit qui agit ailleurs, mais qui vient ici, à Bouc-Belair, à Simiane, à Calas, à Cabriès, à Aix-en-Provence, à Marseille, qui vient ici et qui souffle sur les gens qui sont morts. Et nous pouvons le faire parce que Dieu nous commande de le faire. Dieu commande à Ézéchiel, prophétise à l'esprit, parle à l'esprit, parle au vent. Maintenant, je ne suis pas en train de vous dire que le chrétien prie directement au Saint-Esprit. Ce n'est pas un péché, il est Dieu le Saint-Esprit, il est la troisième personne de la Trinité. Mais normalement dans la Bible, nous demandons au Père, nous parlons au Père au nom de Jésus, nous parlons au nom de Jésus, et c'est l'Esprit qui nous pousse à demander, à prier. Mais quoi qu'il en soit, nous devons demander que l'Esprit vienne et qu'il agisse dans ces situations d'impasse et d'impossibilité et surtout de mort spirituelle. Pour votre vie aussi, peut-être même vous êtes chrétien, mais parfois vous stagnez, n'est-ce pas? Vous rétrogradez. Et vous savez que quand vous êtes dans une situation comme ça, avant la Bible vous parlait, vous aviez envie de prier, etc. Mais parfois nous attristons le Saint-Esprit et nous nous éloignons un peu du Seigneur et on ne peut rien faire pour retrouver cette vie, cette envie, ce désir, cette réalité spirituelle. On lit, on prie, on n'arrive pas à faire revenir la vie en nous-mêmes. Et c'est pour cela que nous avons besoin d'appeler que Dieu, par son esprit, fasse revivre ce qui est prêt à mourir. N'est-ce pas? Donc, il nous dit que nous devons prier pour l'esprit et spécifiquement que l'esprit opère une œuvre de résurrection. Vous avez vu ici. Il dit, prophétise et parle à l'Esprit, prophétise, fils de l'homme, tu diras à l'Esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, je parlais au vent, je parlais à l'Esprit, et l'Esprit vint en eux, ils reprirent vie et se tint sur leurs pieds, c'était une très grande armée. Je termine avec une application. Nous sommes un peu comme les gens d'Israël. Regardez le verset 11. Il me dit, fils d'homme, ces ossements, c'est toute la maison d'Israël. Voici qu'ils disent, nos os sont desséchés. Notre espérance est évanouie. Nous sommes perdus. Parfois, nous sommes comme ça aussi. Peut-être dans cette implantation, comme nous sommes très petits, n'est-ce pas? Et nous avons été auprès des gens, les gens répondent difficilement et nous pouvons tomber dans le pessimisme. Notre espérance est évanouie. ça va jamais marcher. Ou bien peut-être vous êtes devant une situation qui semble impossible. C'est aller trop loin. Et vous avez envie, ou vous dites ce que j'entends de votre bouche, les amis entendent, c'est des paroles de pessimisme, d'incrédulité. Vous vous fixez, vous vous focalisez sur ce qui ne va pas, sur cette mort qui est là, sur ce que le péché a causé, et vous ne parlez que de ça. Ils disent, et ils ne disent que ça, nos os sont desséchés, notre espérance est évanouie, nous sommes perdus. Et on parle comme ça. Les gens parlent comme ça au sujet de leur mariage. C'est foutu, c'est fini, il n'y a plus d'amour, d'amour, ainsi de suite. Les gens parlent tout le temps comme ça, n'est-ce pas? Eh bien, prophétise, tu leur diras, ainsi par l'Éternel, voici que j'ouvre vos tombes, je vous fais remonter de vos tombes, ô mon peuple, et je vous fais revenir dans le territoire d'Israël. Vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos tombes et que je vous ferai remonter de vos tombes. Dieu est en train de nous dire, vous allez voir que Dieu est Dieu quand vous voyez que Dieu renverse une situation complètement morte et impossible. Si vous avez une situation où il semble qu'il est encore possible d'arriver à résoudre, vous n'avez pas besoin de Dieu. Et vous avez besoin d'un petit Dieu. Mais l'Éternel Dieu, le Créateur des cieux et de la terre, vous verrez qu'il est quand vous lui demandez d'ouvrir des tombes de quelque chose de mort, d'impossible, et il le fait. Quelle est cette situation? Est-ce que c'est vous-même qui êtes mort spirituellement? Vous avez besoin d'être né de nouveau, de venir à Christ? Est-ce que c'est quelqu'un que vous aimez, mais qui ne connaît pas encore le Seigneur? Est-ce que c'est une autre situation qui vous semble impossible? Est-ce que c'est notre nation qui vous semble aller trop loin maintenant? Il y a des gens qui sont comme ça. Ils aiment écouter les actualités les plus pessimistes. Ils vont chercher l'émission la plus pessimiste parce qu'ils se nourrissent de pessimisme maintenant. La culture occidentale, disent-ils, c'est fichu, c'est fini, et ils en sont là. Mais c'est un moyen d'enrayer Dieu, de dire que la mort est plus fort que Dieu. Et Dieu nous dit, on n'a pas le droit de dire ça, de dire notre espérance est évanouie. Vous n'avez pas le droit de dire nos os sont desséchés et c'est fini. Parce que l'Éternel vous dit, je peux ouvrir votre tombe. Je peux tout changer. Donc au début de cette année, je vous encourage avec moi de croire dans ce Dieu qui est un Dieu qui ressuscite des morts et qui fait l'impossible, que nous puissions vraiment ensemble croire la bonne nouvelle qui est toujours une bonne nouvelle de résurrection des morts et que nous puissions voir le Seigneur Jésus opérer pour le bien des gens autour de nous, pour nous-mêmes et pour sa gloire, ses œuvres qui nous montreront qu'il est Dieu. Nous allons chanter, pour terminer notre culte, le 205, dans le recueil bleu 205. Le Seigneur s'incline, il nous illumine de sa présence divine. Sa croix nous rassemble,
que notre cœur tremble et qu'il chante tout ensemble. Adorons, présentons notre humble requête en courbant la tête. De toute œuvre vaine, frivole ou mondaine, nous nous détachons sans peine. Toi seul nous enflammes, nos cœurs et nos âmes sont à toi, tu les réclames. Nos désirs, nos plaisirs, prends tout dès cette heure, qu'à toi tout demeure. Seigneur riche en grâce, prends toute la place, devant toi que tout s'efface. Remplis nos mains vides, nos cœurs sont avides, enfin toi seul, il réside. Comble-nous à genoux, nous cherchons sans feinte, présence sainte. Nous voulons te plaire, viens et daigne faire de nos cœurs ton sanctuaire. Rends nos âmes pures, lave nos souillures par le sang de tes blessures. Nous t'aimons, nous voulons avec allégresse te servir sans cesse.
Je vous invite à prier. Sentez-vous libre de prier.
Éternel, merci pour la parole de l'Évangile que tu nous as permis d'entendre. Et Seigneur, nous te prions de nous aider à la transmettre fidèlement autour de nous. Et Seigneur, comme tu nous l'as rappelé ce matin, ta parole seule ne transforme pas des cœurs, elle ne ramène pas à la vie. Nous avons besoin que ton esprit agisse et utilise cette parole pour l'appliquer au cœur des gens. Et Seigneur, nous te prions alors d'envoyer ton esprit, d'agir puissamment par ton esprit dans nos cœurs, déjà ici, mais aussi autour de nous, dans les cœurs des personnes que nous connaissons, à qui nous avons parlé de Jésus-Christ, de son œuvre à la croix. Seigneur, que ton esprit puisse, avec puissance, transformer nos cœurs et les vies de ceux qui nous entourent. Dans le nom de Jésus.
Amen.
Merci Seigneur, parce que bonne chose que parfois tu nous mettes au pied du mur, car cela nous oblige à lever les yeux vers Christ, vers le salut, vers la résurrection. Si tu ne faisais pas cela, nous demeurerions certainement dans nos péchés et nous resterions dans la mort spirituelle. Merci Seigneur, vraiment aide-nous à saisir, à nous rappeler de ce qui a été dit ce matin pour que à chaque fois qu'une circonstance nous paraît impossible à résoudre et que tout nous semble perdu, nous levions les yeux vers toi comme étant celui seul qui est capable de ressusciter les morts et de nous tirer, Seigneur, du mauvais pas. Merci pour ton œuvre et pour cet encouragement que nous avons reçu ce matin. Et aide-nous, comme il a été dit, à partager cette espérance avec ceux qui nous entourent. Amen.
Amen. Seigneur, tu nous as fait renaître, pour beaucoup d'entre nous, tu nous as fait renaître une espérance vivante à travers la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Puisqu'il est ressuscité, ô Père, la mort n'a pas le mot final sur nous. Nous te bénissons, nous te louons de ce que Christ a vaincu la mort. Et en lui et par lui, nous la vaincrons un jour aussi, pour vivre avec toi éternellement. Nous te louons pour cette merveilleuse puissance et grâce qui est la tienne, qui nous sauve de la mort. Et nous prions pour cette communauté autour de nous et pour cette France qui a tant besoin de comprendre que cette vie n'est pas tout, que cette vie n'est que vanité sans la vie éternelle. Et nous prions instamment, Seigneur, que tu fais souffler le vent de ton esprit sur ce pays, sur ces villes où nous sommes, que souverainement et miraculeusement, ô Dieu, que tu nous montres que tu es l'éternel Dieu, en faisant revivre des morts. Pour ceux qui ont des besoins ici dans cette assemblée, nous prions ici que tu leur montres que rien n'est impossible pour toi. Que tu tournes le cœur de chacun vers toi, le Dieu de la résurrection. Et pardonne-nous, Seigneur, pour toutes les fois où nous sommes pessimistes, nous ne croyons plus, nous nous résignons à un désespoir et nous ne te voyons plus. Aide-nous, Seigneur, pardonne-nous, renouvelle-nous, bénis-nous pour la gloire de ton nom. Amen.